Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Salut, c'est Thomas Rozek. À peine entré dans le printemps, j'imagine que, comme beaucoup, vous en êtes déjà à vous demander vers quelle destination vous porteront les sacro-saintes vacances d'été. Habitude oblige, c'est la période de l'année où la majorité d'entre nous choisit de lever le camp, perpétuant la tradition républicaine héritée des congés payés. Mais cette belle image d'Épinal du peuple accédant enfin aux loisirs et au repos, elle cache évidemment une réalité bien plus complexe. Par exemple, on aurait tendance à oublier que toute une partie de la population n'a pas, faute de moyens souvent, accès aux mêmes vacances. Elle se construit donc nécessairement une expérience de la société tout à fait singulière. Ça ne la rend ni moins bonne, ni moins riche en souvenirs, mais juste différente. C'est cette histoire que nous avons eu envie de vous raconter toute cette semaine avec une série documentaire. Elle s'appelle Quartier d'été, elle est signée Meyram Guisset. C'est Vincent Hiver qui l'a réalisée et le premier des 5 épisodes qui la composent arrive tout de suite. Bienvenue dans Programme B.
Petite, quand sonnait l'heure des vacances scolaires, c'était l'angoisse. Je détestais. C'était synonyme d'ennui. Dans le quartier où j'ai grandi, on était plusieurs à ressentir ça. Je redoutais la question « Et toi, tu vas où ?» Delphine, Sabrina, Gaëlle, allaient en Vendée, à Marseille, etc. Anan, Alima, Hassan allaient au bled en voiture, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Moi, je regardais les pères de famille charger les breaks, les Renault Espace. Je disais au revoir aux amis et je restais là, avec d'autres, à espérer que le temps passe vite. Et puis une année, mes parents m'ont envoyé en vacances. Instant magique. Je quittais la cité. Ma mère, au foyer, et mon père, qui travaillait, voulaient que mes 4 frères, ma sœur et moi, on prenne l'air. Alors, on nous a emmenés chez mes cousins, à Cléon Sud, une autre cité, à 25 minutes de la mienne. On est nombreux à avoir connu ça. Vivre en cité, aller en vacances dans une autre. Comme Abdel, Nantou et Blade. Pour Binge Audio, ils reviennent sur leur quartier d'été.
Je m'appelle Abdallah Derdour, j'ai 40 ans, bientôt 41. Je suis papa, citoyen lambda. Enfin, presque.
Je suis Nantou, j'ai 33 ans, je vis actuellement à Montréal, donc je suis française, je vis ici maintenant depuis 5 ans, donc c'est mon quartier d'été et d'hiver ici.
Je suis Bled, Alim Bay, je suis artiste pluridisciplinaire entre la comédie, le théâtre, la musique et j'ai 37 ans.
Quartier d'été, épisode 1.
On est arrivé en France en 80, voilà. Donc, et on a domicilié tout à la Clochette. Et c'est une cité minière, en fait. Voilà. Donc c'est des logements qui avaient été attribués aux mineurs et gratuitement. Et voilà, c'était notre ghetto, quoi. C'était voilà, on a été parqué là-bas entre guillemets. Voilà, plein de souvenirs en tête. Voilà, et c'est un petit peu particulier par rapport au reste de la France. L'atmosphère, le climat, l'histoire industrielle, c'était l'exploitation du charbon, donc qui dit charbon dit un peu sombre comme décor, ambiance brique rouge. Voilà, déjà un aspect visuel, et puis après chargé d'histoire. Dû à la fermeture des mines, au chômage, à la diversité de la population, voilà, pour tout ça.
C'était un quartier multiculturel, en fait, où j'ai grandi avec des gens de toute origine, là, que ce soit des Blancs, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Turcs, il y avait des Cambodgiens, des Indiens aussi, et puis bah, des Maliens, des Guinéens. On était vraiment tous ensemble, là, tous mélangés. Donc, niveau culturel, multiculturalité et ethnicité, on était un vrai melting pot. Là. C'était le United Colors of Benetton dans la ville.
Je viens du Havre. Je suis né, j'y ai grandi, en Normandie. Et j'ai passé du temps, première phase de ma vie, ma dizaine, jusqu'à ma dizaine, on va dire, dans un village qui s'appelle les Trois Pierres. Donc, c'était en périphérie du Havre et il y avait 350 habitants, donc vraiment la campagne, puisque mon premier voisin avait une exploitation agricole avec des vaches, des choses comme ça. Et suite à la séparation de mes parents, je suis arrivé au quartier des Neiges, donc là, vraiment au Havre. C'est dans la zone portuaire. Donc, mon grand-père est arrivé là dans les années 40-50. Après la guerre. Donc, il était tirailleur et donc il s'est installé là-bas. Et quand mes parents se sont séparés, on est venu dans ce quartier des Neiges avec plein de gens d'origines diverses qui venaient un peu de partout aussi. Donc, voilà, j'ai grandi là-bas après. Ce qui était incroyable, c'est que je crois qu'il y avait environ beaucoup, beaucoup de nationalités, dont des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, des Mauritaniens. Il y avait aussi des Polonais. Des Cauchois, donc les Cauchois qui sont des habitants du Pays de Caux, qui représentent un peu toute la région, donc le Havre, Étretat, Fécamp, toutes ces villes-là. Et donc on était vraiment, on vivait tous ensemble ici, vraiment. Parce que ce quartier avait une spécificité, c'était sur la zone portuaire. Et il y avait vraiment quelque chose où les gens quand même étaient assez solidaires.
Peu importe la distance, ce qui compte, c'est d'être ailleurs, de changer d'air, de changer d'atmosphère. Même si ça signifie passer un été au quartier, au milieu de bars HLM qu'on ne connaît pas. Ils y allaient à pied, en RER ou en voiture. Du Nord à Limay, du Mai à Melun ou Cergy, du Havre à Mantes-la-Jolie, c'était tout un périple.
On était 5 enfants chez moi, on a un grand frère, une grande sœur et puis moi j'ai 2 petites sœurs. Et c'était ambiance de dingue quand on nous annonçait qu'on allait chez Brahim. C'était magique parce que pour nous on allait à Paris, tu vois. Pour nous on allait à Paris, Paris c'était, je sais pas moi, c'est après New York, c'est Paris, tu vois. T'imagines, ouais. t'habites dans le Nord... Là, avec ta petite vie, cité minière et tout ça, et puis tu vas à Paris, quoi. Et Paris, c'est la télé, c'est là où se passe, là où tout se passe. Et après, quand on allait là-bas, on s'est rendu compte vite fait que c'était pas Paris, quoi. Que c'était vraiment la banlieue parisienne et pas Paris. Mais en tout cas, ouais. Alors le voyage, on partait souvent le samedi matin. Et mon père, il avait un espèce de van, un minibus, 9 places et tout. Il était super content, il venait de l'acheter, il était tout neuf et tout. C'est à partir de ce moment-là qu'on commençait à faire vraiment les déplacements en famille, parce qu'avant, on avait une plus petite voiture, donc voilà. Et là, du coup, on est 5 enfants, il fallait... voilà. Tout bon Marocain, à l'époque, avait son minibus. Et du coup, c'était... Voilà, ma maman, elle préparait tout, les affaires de tout le monde, voilà... de la bouffe, tu vois, de quoi boire et manger aussi sur la route. Et ce qui est marrant, c'est qu'on prenait la nationale, pas pour éviter les péages et tout ça, peut-être aussi. Mais c'était surtout comme la voiture, elle était neuve, à l'époque, t'avais un espèce de rodage à faire. Et du coup, mon daron, il prenait le chemin le plus long pour y aller, pour roder la voiture. Tu vois, je pense. Truc de ouf. Donc, la seule occasion pour roder la voiture, c'était de faire cette longue distance. Donc, il y avait 250 km environ en nationale. Et on traversait, en fait, toute la nationale de Douai jusqu'à Limay. Donc, on passait par la Picardie, la Somme, voilà, tout ça. Et puis, on s'arrêtait à Amiens. Je me souviens, on descendait, on allait, mon père allait nous chercher des frites. Parce que ma mère, elle nous préparait des petits plats froids et tout. Et la seule chose chaude qu'on pouvait manger et tout sur la route, c'était des frites. Donc on s'arrêtait à une baraque à frites et tout. Ils venaient ramener les frites, on mangeait dans la voiture, dans un petit parc, un petit air de repos de la nationale, puis après on repartait et tout. Ambiance dans la voiture, musique berbère, à gogo, voilà, c'était génial. On était vraiment, et au fur et à mesure où les kilomètres passent et tout, tu vois, on était tous heureux et contents, et on regardait les panneaux, et là on voit, il y a Paris, direction Paris, après Mantes-la-Jolie et tout, et là on arrive, bam! Ah, on arrive, on voit leurs bâtiments et tout. Franchement, des super beaux souvenirs parce que même quand t'arrives, en fait, tu plantes le décor, quoi. Ça n'a rien à voir avec notre quartier qui est assez sombre. Je t'ai dit, briques rouges, comme disait Poulvord dans son premier film, là, rouge sang, tu sais. C'est vrai, hein, franchement, il y a quand même ce décor voilà, le climat et le décor. Et chez eux, en fait, les bâtiments, ils étaient blancs ou beige, et déjà on traversait de la verdure, et ensuite on arrivait dans leur quartier, on dirait un quartier qui a été planté en plein milieu du Vexin. Donc tout est vert, des champs, des forêts, des bois, et on arrive là, bâtiment tout blanc, genre le truc propre, quoi, tu vois, enfin propre, de loin. Et bah oui, parce qu'après eux aussi ils ont leurs conditions de vie, on en reparlera, mais du coup au moins il y avait cet aspect là et tout qui était complètement différent, des bâtiments énormes, et là on arrive, puis ils débarquent tous dans le parking, tu vois, on arrive, on se gare, ils sont là, ils sautent tous de joie et tout, sauf un cadre, lui, à chaque fois qu'on venait, il se planquait sous le lit, il était intimidé par ma daronne, on n'a jamais compris pourquoi. Ouais. Donc tout le monde descendait sauf lui, il était sous le lit, dédicace à cadre. Et du coup là on arrive et il nous aide à prendre les bagages et tout, tu vois, là, ça commençait déjà, tu vois, l'ambiance était déjà plantée et tout. Hop, on arrive, on monte dans cet ascenseur, l'ascenseur d'HLM, quoi, tu vois. C'est cette odeur, cette odeur d'HLM, d'ascenseur. Je vais pas décrire l'odeur, mais tu sens que là, t'arrives, tu vois, dans un bon ghetto aussi, tu vois. T'arrives pas non plus, donc là, y a plus d'illusions, tu vois. T'arrives, ouais, c'est pas Paris. C'est autre chose, et puis tu le découvres au fur et à mesure.
Je préparais mes affaires, puis ben, je ramenais pour le temps qu'on restait, quoi, 2 semaines, 1 mois, etc. Mais j'avais tout ce côté, ouais, je vais être avec des filles, c'est cool, tu sais. Donc moi, il y avait ça qui me faisait, qui faisait que j'étais super contente de partir. Puis à un moment, tu te dis, attends, ben, c'est juste à côté, là, tu vois. Mais quand t'es plus jeune, non, c'est waouh, tu vois, t'as l'impression de partir waouh, super loin, c'est limite une autre ville, quoi. Psychologiquement, en effet, il y avait quelque chose qui jouait dans le sens, pour ma personne en tout cas, c'est que, ouais, je sortais de mon cadre. Donc, quoi qu'il se passe, c'était pas peu importe où j'allais, mais je pense que dans ma tête d'enfant, il y avait vraiment pas « Ah, tu vas de l'autre côté ». Non, je me disais, ben, je vais chez mon oncle. Et puis après, je pense qu'il y avait... c'était un peu, peu importe l'endroit, là, ça va être cool. Puis la plupart des gens, je me rappelle mes amis, ceux qui partaient au Maroc ou quoi, ils partaient vraiment très tôt après la fin de l'école. Donc la plupart des gens s'en allaient, partaient soit dans leur famille en Afrique, soit ailleurs pour les autres. Mais ce qui fait qu'au bout d'un moment, il reste une personne... Enfin, souvent, il en restait deux, puis tout d'un coup, il n'en reste plus qu'une, puis tout d'un coup, il n'en reste plus, puis tout d'un coup, il reste que toi. Puis même, tu as envie de changer d'environnement. Tu as envie de dire, bah, moi aussi, je pars, tu sais, je pars quelque part. Donc, tu vas me faire un changement, une bouffée d'air frais. Tu as ta petite coupure, là, des vacances. Du côté de ma mère, j'avais un oncle qui habitait pas très loin pendant quelques temps, donc à Melun. Lui a vécu là-bas plusieurs années après. J'étais quand même aussi assez jeune, mais je pense que là, je me rapprochais des 8-9 ans, je pense. Donc là, je pouvais me permettre d'y aller toute seule. Et c'était à peu près un quart d'heure, 20 minutes de trajet à pied. Et je trouvais ça cool d'y aller aussi. Il avait une fille qui était quand même assez grande. Je faisais des activités aussi différentes de celles que je pouvais faire chez moi quand je me rendais chez lui. Et j'y allais toute seule, parce que là, c'est un moment aussi où
t'arrives vers 8, 9, 10 ans, tu commences à vouloir prendre ton indépendance, c'est-à-dire que t'es grand ou que t'es grande. Donc je faisais le chemin seul, sauf que pour me rendre là-bas, je devais passer un pont. Et moi, j'ai le vertige. Donc ça rendait la tâche un peu plus compliquée, mais je voulais quand même pouvoir le faire toute seule. Donc je passais ce pont, mais j'avais peur. Mais j'avais extrêmement peur. Je pense qu'il m'est déjà arrivé de rester comme figée sur le pont, puis de me dire « Ah, ok, c'est chaud ». Le truc, c'est que, pour t'expliquer mon vertige intérieur, c'est que quand je suis sur un pont, il ne faut pas que je regarde en bas, sinon j'ai l'impression que je vais me laisser tomber. Sauf que j'ai vraiment l'impression que mon corps vacille aussi. Donc quand je sens que ça fait ça, je reste figée. Et ce qui me faisait peur, c'est que là, je voyais des voitures passer super vite, super vite. Je voyais des camions, etc. Donc la plupart du temps, j'attendais qu'il y ait moins de voitures qui passent. Et là, j'avançais, puis je m'arrêtais, puis j'avançais, puis je m'arrêtais, puis j'avançais, puis je m'arrêtais. Puis je pense que ça, ouais, un quart d'heure, 20 minutes, c'est le plus long que j'ai pu faire pour réussir à traverser le pont.
Et alors, je pars du Havre pour aller à Mantes-la-Jolie. Donc, je vois 6-7 ans, un truc comme ça. Donc, ce qui était fou, c'est que on prenait la voiture et on allait loin, 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 loin. Parce que quand on est à cet âge-là, avec l'imagination, les choses comme ça, quand on s'assoit dans une voiture pour faire environ plus de... Le Havre-Mantes, ça fait environ... On n'est pas loin de 200 km, je crois. On reste dans ces zones-là, au moins 2 heures de route facile. C'est fou parce que c'est un vrai périple. Il y a plein d'aventures, tu vois la route, l'autoroute. Je me rappelle que j'ai des souvenirs là, mais j'ai vu des choses incroyables à travers la vitre de mon œil d'enfant qui ont fait naître en moi l'imaginaire que j'ai en tant qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste, de voir des gens, tu vois, même des gueules fracturées parce qu'eux aussi n'ont pas les moyens de partir loin. Donc ils prennent la route aussi avec toi, ou d'autres encore, des gens qui ont des belles voitures ou des... Plein de choses, des fenêtres, des paysages, des vaches, des sculptures. Là, quand tu arrives au niveau de Bois Guillaume, là, Guillaume le Conquérant, là, cette rue, je me rappelais de ça. Et quand j'arrivais par là, je me disais, ah, on est bientôt arrivé. Et puis souvent aussi, on faisait un détour parce qu'on passait par Bondy, voir ma tante. Et quand tu arrivais dans le périph', tu voyais la Tour Eiffel au loin, comme ça, tu dis, ah ouais, putain, c'est un truc de fou. Waouh, waouh, waouh. Donc il y avait tout ce périple qui était. Et puis la musique aussi, la musique que ma mère écoutait, que mon père écoutait, qui ont éduqué mon art aujourd'hui. C'est émouvant, en fait, d'en parler, parce que après les disputes avec mes frères, ma sœur, parce qu'à l'époque, tu vois, on était 4, donc on te mettait sur la banquette, il n'y avait pas aujourd'hui les normes. Ah non, il faut un siège auto, la fanfan, si ou ça. Donc c'était ça aussi qui était amusant, de voir un petit peu comment les choses étaient avant. Ah, ça va me rendre nostalgique, hein. Je commence à avoir des nœuds dans la gorge et tout. Mais ouais, c'est cool. Le sac, tu sais qu'on avait tous un sac tous ensemble et on nous préparait les trois à la chaîne. Allez, fais ça, ça, ça. Donc on prenait des affaires et tout ça. Et puis ma mère, elle nous pliait nos affaires, elle les mettait chacun. Bon, là, c'est ton côté, ça, c'est ça, c'est ça. Parce que le but, c'était pas de multiplier les bagages, mais d'être efficace tout de suite dans un grand bagage. Que ça puisse aller dans le coffre et que, voilà, dès que vous arrivez, vous vous débrouillez, vous arrangez, toi et tes frères. Mais en tout cas, tu sais que t'as la thèse. Et comme j'ai mon frère qui me suit après moi, on a 2 ans de différence, donc il y avait aussi des habits qui étaient communs, quoi. Donc on pouvait, s'échanger ça. Et donc, quand on préparait ça, donc on descendait la valise, on la mettait dans le coffre. Parce qu'après, là, c'est drôle parce que je vois plusieurs images. Il y avait la 305 et après, il y a une R20. Donc la R20, après, comme elle était plus grande, on avait plus de place. Mais parce qu'après, je partais avec ma mère. Donc ma mère, elle avait la R20, voilà, la Renault 20, blanche. J'aimais beaucoup cette voiture parce qu'elle était longue et très confortable. Les sièges étaient très confortables, donc le voyage était agréable. Donc on n'avait plus besoin de se tasser, tu vois, comme des sardines. Mais la banquette était très, très, très confortable. Donc elle nous disait de descendre, et souvent, comme aussi après, elle avait des choses à faire, donc fermer la maison, regarder, vérifier les choses. Donc ça prenait du temps. Et on était tellement pressés de pouvoir se partir du quartier, tout ça. Et en plus, malheureusement, il y avait des copains qui restaient, Et donc, nous, ils nous voyaient faire une valise et partir. C'est bête, hein, parce qu'on était quand même très fiers de partir, et donc on était un petit peu dans des positions pour les narguer et tout. Enfin, t'as vu, nous, on va partir, non, non, on les regardait. Et eux, ils restaient. C'est pas cool, hein. Aujourd'hui, maintenant que j'y pense, tu vois, eux, les pauvres, restaient. Donc, ils étaient là, ah ouais, bon, tu reviens quand et tout. Et puis, donc, on disait, ouais, on était très fiers, ouais, on revient tel jour. Ah, ça va être mortel. Ah, vous allez où? Ah, Mantes-la-Jolie. On dirait qu'on partait à Los Angeles. Et donc, ils étaient là, ah ouais, ah, la chance, les pauvres. Et puis, ils restaient parce qu'aussi, eux, n'avaient pas de famille pour aller ailleurs. Donc, ouais, c'était cool après ce moment où, après, la clé rentrait dans le contact. Ça démarre. Il y a une musique dans le poste. Je mets une cassette. Ma mère, elle écoutait à l'époque Michael Jackson. Il y avait beaucoup de Michael Jackson, aussi de Youssoundour, Baba Mal. Il y avait Ismaël Lo. Il y avait James Brown. Et ouais, qui donnait une BO quand on regardait les paysages. Donc c'était ouais. C'est drôle, j'en vois encore là. Je vois les paysages défiler, ma tête au-dessus. Tu vois, essayer parce que comme aussi on était petits, non mais regarde pas et tout, parce que comme il y a une hiérarchie par rapport à la fenêtre, qui est à côté de la fenêtre, tu vois. Donc si t'es le quatrième, non si t'es troisième, on est quatre. Si t'es quatrième, donc t'es obligé forcément quelqu'un qui est à ta gauche et deux à ta droite, tu vois. Donc Grégory, qui est mon petit frère, et moi, donc on était dans cette position-là. Donc il y avait toujours quelqu'un entre nous, quoi. Donc mon grand frère David, lui, il était collé à la fenêtre, et ma grande sœur Virginie aussi, à l'autre côté. Donc généralement, ouais, je crois que j'étais à côté de David, ouais. Parce que ma sœur était à côté de Greg pour pouvoir prendre soin de lui, au cas où. Et donc David, à cette époque-là, il était pas très... Tiens, il était un peu remonté tout le temps. Donc à chaque fois, je vais regarder, ah, vas-y, m'embête pas, et tout. Donc voilà, David très teigneux, c'est mon grand frère, hein, teigneux. À cette époque-là, il était teigneux, ouais, ouais, je m'en rappelle. Donc ouais, c'est ces paysages ouais, qui racontent après maintenant d'autres histoires quand je me remémore ça. Mais ouais, c'était beau en tout cas. Je me souviens, j'avais beaucoup de sensations agréables pendant le voyage.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016... Je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.